Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Kepel, professeur des universités, essayiste, spécialiste du monde arabe contemporain, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage dont le titre est inspiré d'un verset biblique, « Prophète en son pays », un récit dense qui débute en 1980 lorsque vous arrivez à Alexandrie pour enseigner et commencer votre thèse sur les mouvements islamistes. Et l'on vous suit ensuite dans votre parcours de chercheur, avec des hauts mais des bas aussi, lorsque vous évoquez les combats qui n'ont pas seulement lieu sur les terrains du Moyen-Orient, mais dans les salons feutrés du monde universitaire parisien. Votre livre est stimulant pour le débat qu'il propose, pour la profonde originalité de votre approche et ce panorama des 40 dernières années que vous nous offrez sur les convulsions politiques et identitaire. Je me permets de rappeler pour nos auditeurs que nous vous avions reçu pour l'excellent Passion arabe, sorti en 2013 chez Gallimard, un livre qui avait reçu alors le prix Pétrarque de l'essai de France Culture. Gilles Kepel, bonjour.
Bonjour.
Si votre domaine d'expertise est celui de l'islam politique, vous connaissez aussi les communautés chrétiennes d'Orient, des communautés que vous fréquentez au cours de vos voyages, au cours de séjours, au cours de vos enquêtes de terrain. Et ce point particulier, celui de votre regard contemporain, est précieux. Je voudrais vous entendre d'abord sur leur poids politique, l'influence de leurs intellectuels, comment vous voyez leur avenir. Ma première question serait et de vous demander de nous décrire vos impressions d'un premier voyage qui a eu lieu en 1974, lorsque vous découvrez la Syrie.
Merci, c'est d'ailleurs tout à fait opportun puisque c'était aussi la découverte de l'hospitalité dans les monastères. Et je me souviens avoir dormi dans un monastère qu'on appelle grec orthodoxe à l'époque, enfin qui était destiné aux Arabes, mais aux Arabes de rite grec orthodoxe, près du Krak des Chevaliers, aussi d'avoir dormi dans les monastères à Mahaloula. Il fallait rentrer très tôt pour, sinon on était condamné à rester dehors, on pouvait pas faire le mur. Et également au monastère arménien catholique, je crois que c'est sur la septième station de du chemin de croix à Jérusalem. Donc pour moi, ça a été, une découverte de ce christianisme oriental qui était quelque chose qui à la fois me replongeait aussi dans mon enfance méditerranéenne à Nice et à Menton, où j'avais une arrière-grand-mère très très pieuse. Mes parents étaient communistes et moi j'étais athée, je le suis toujours, mais j'ai dû ma carrière d'arabisant à l'église, puisque quand j'ai obtenu la bourse pour l'Institut français de Damas, je raconte ça dans le livre, le ministère, une bourse pas très difficile à obtenir, c'est le seul concours où j'ai brillé parce qu'il y avait 10 places pour 7 candidats. Donc là, vraiment, j'ai réussi à donner toute ma mesure. Et on a reçu une lettre du ministère des Affaires étrangères laïque de la République française laïque qui disait « Bravo, mais je crois devoir vous signaler, virgule, que dans le passé, virgule, les autorités syriennes ont exigé la production d'un certificat de baptême pour délivrer le visa. » C'est-à-dire qu'ils vérifiaient qu'on n'était pas juif. Puis Kepel, bon, ça fait 50 ans que la presse arabe dénonce le juif Kepel, qui n'est pas du tout juif de Grèce, mais enfin, c'est après tout toujours le juif de quelqu'un. Et donc, heureusement que mon arrière-grand-mère m'avait fait baptiser à l'église du Port à Nice. Je suis allé dans la sacristie. J'ai eu mon certificat de baptême, qui n'était pas faux, et donc j'ai pu faire de l'arabe. Vous voyez, donc si j'avais pas, comme j'ai débaptisé tard, j'ai le souvenir du sel sur ma langue, qui reste encore un traumatisme enfantin.
Alors, est-ce que le baptisé Gilles Kepel était fidèle aux offices religieux lorsqu'il était hébergé dans les monastères, ou quel était votre sentiment face à ces rites orientaux?
Ah, j'ai toujours beaucoup aimé aller à la messe. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, c'est la croyance, mais je me dirais, et chanter et suivre. Enfin, je me souviens, au moment du livre que vous avez évoqué, Passion arabe, du reste, c'était, je crois que c'était Pâques, ou les rameaux, dans une église copte à Esna, en Haute-Égypte, et puis dans une autre après, avec ces messes coptes qui durent des heures et avec les gens qui chantaient, c'était très impressionnant. C'était une époque intermédiaire, si j'ose dire, pour parler à l'histoire de l'Égypte en général. Vous savez qu'il y a des époques intermédiaires et où le régime dictatorial était tombé, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et également avant que les djihadistes n'égorgent tout le monde. Et avec un ami de Nice, d'ailleurs, aujourd'hui décédé, Dominique Ferrero, qui avait fait un retour chrétien quelques années avant sa mort du reste, nous avions loué une cange, comme Gustave Flaubert et Maxime Ducamp, ce qu'on appelle une dahabiya en arabe, un bateau sur le Nil. Il n'y avait personne, hein, c'était au moment des 10 printemps arabes. Et j'avais pris avec moi un petit guide en arabe qui s'appelait le guide des pèlerinages et des couvents coptes en Égypte. Et ça me servait de bédéquer d'une certaine manière. On arrêtait le bateau dans un berge quelconque, des taxis arrivaient, et je disais « je veux aller là ». Et c'est comme ça que j'ai découvert. On n'avait pas le droit, hein, à l'époque de Nasser, de Sadat et compagnie. Il fallait des autorisations de la police. Après, on pouvait rien faire parce que les djihadistes vous égorgeaient. Et dans ce petit moment, justement, ce petit moment de bonheur, j'ai découvert l'Égypte par la Haute-Égypte par ses monastères. C'était tout à fait une chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. J'en profite, puisque nous sommes dans cette émission, pour vous dire que le titre « Passion arabe », tout le monde a cru que ça voulait dire, de manière très triviale, « il aime bien les Arabes ». En fait, les esprits fins comme vous l'êtes, Sébastien, ont remarqué que ce livre se décline en 14 chapitres. Donc, autant de stations du chemin de croix. Et passion, évidemment, c'est un terme qui est très chargé en français, car c'est aussi la passion du Christ.
Est-ce que vous êtes allé au Sinaï à l'époque de ces voyages au
monastère
de Sainte-Catherine?
Oui, j'ai dormi aussi dans les couvents au Sinaï, avec des prêtres grecs orthodoxes qui étaient souvent en fait des Grecs des États-Unis qui étaient revenus là par passion, à tout le sens du terme, et qui étaient à la fois très très high-tech et très entre guillemets fondamentalistes.
Fondamentalistes dans le terme
religieux, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment c'était des orthodoxes, vous savez, sur le mont Athos, un endroit aussi où j'ai séjourné quand j'étais jeune, et j'ai d'ailleurs failli y être violé par un moine en échange de d'ouzeaux. Il y avait à l'époque, je ne sais plus quel couvent, c'était pas la Grande Laure, mais une autre, laquelle il y avait écrit Orthodoxia et Thanatos, c'est-à-dire l'orthodoxie ou la mort.
Donc en tant que baptisé catholique, là pour le coup, c'était pas forcément la meilleure des cartes de visite.
Oh, j'étais assez souple sur mes affiliations.
Alors revenons sur le cœur de votre sujet. Je rappelle le titre de votre livre, Prophète en son pays. J'évoquais 40 ans de carrière, 40 ans de voyage, de rencontres, d'études. Vous avez travaillé sur la France aussi, sur nos sociétés. Mais la grande part de vos activités, c'est d'essayer de comprendre et de décrypter les sociétés du monde arabe. Dans ces sociétés, il y a des communautés chrétiennes et il y a des intellectuels. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement maintenant, c'est quel est l'état du débat actuelle. Alors, c'est beaucoup de pays en même temps, donc on va peut-être pas les aborder tous, mais est-ce que vous avez des figures marquantes qui ont peut-être marqué l'histoire moderne de la pensée politique au Proche et Moyen-Orient, et est-ce que ces chrétiens, ces intellectuels ont pu avoir une voix particulière, une voix singulière?
Les intellectuels chrétiens, bien sûr, ont joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire moderne, puisque ce sont eux qui ont été, d'une certaine manière, les vecteurs d'une arabité qui ne soit pas réductible à l'islamité. Et le mouvement qu'on appelle la Nahda, c'est-à-dire la renaissance de... arabe après l'effondrement de l'Empire ottoman, ou pour accélérer l'effondrement de l'Empire ottoman, a été porté en grande partie par des intellectuels chrétiens, libanais et syriens principalement, puisqu'ils étaient plus en contact avec le monde universel que l'étaient les coptes, parce que l'Église autocéphale copte orthodoxe est nilotique et le reste du monde ne l'intéresse pas tellement. Elle va jusqu'en Éthiopie, disons, mais pas tellement à l'est ni à l'ouest. Et au moment où le nationalisme arabe moderne se développe, le baasisme, par exemple, est un la sainte trinité, si j'ose dire, du baasisme, c'est Michel Aflaq, un chrétien qui du reste viendra musulman à la fin de sa vie, un alaouite, Zaki Arsouzi, et un sunnite, Salahedine Bitar, qui sera assassiné à Paris du reste. Je l'avais rencontré peu avant sa mort ici. Et donc ça a joué un rôle très important. Aujourd'hui, l'islamisation générale a rendu ces voix chrétiennes beaucoup plus... beaucoup moins audible, et cela d'autant plus que la démographie a joué contre le christianisme oriental. La dégradation du niveau de vie, l'explosion démographique, etc., on le voit sur le domaine même de la Terre Sainte palestinienne et israélienne, mais encore en Égypte, en Syrie, au Liban particulièrement, les chrétiens fuient massivement la région, et grâce au fait que les églises universelles ont des réseaux cosmopolites, ça facilite leur départ. J'avais le souvenir, j'avais bien connu celui qui est aujourd'hui l'archevêque de Bagdad, son nom va me revenir dans un instant, je ne connais que lui, Najib Mikhaïl, qui avait sauvé, connu, parce que c'est lui qui avait sauvé les livres à Mossoul. Et quand ils étaient à Erbil, donc il y avait tout quasiment un quartier chrétien qui s'était restauré à Nkawa. C'était très émouvant d'ailleurs de voir cette, d'une certaine manière, transplantée dans une espèce de banlieue où des supermarchés n'avaient pas été finis, c'était devenu, il y avait des emplacements pour les escalators, mais c'était devenu des villages chrétiens de déplacés. On voit que, ou les gens de Karakoche, par exemple, où j'avais habité, à l'évêché dans les bâtiments désertés du séminaire que Daesh avait transformé en centre de torture et d'exécution.
Nous sommes dans le nord de l'Irak, voilà, et vous évoquez l'été 2014, la fuite des chrétiens de Karakoche.
C'est ça, après, quand je suis revenu, après la défaite de l'État islamique, bien sûr, il y avait encore les traces, ça, partout, et grâce au frère Najib, d'ailleurs, qui m'avait fait passer, il était à l'époque à Erbil. Et donc on avait j'avais été très frappé parce que quand j'étais reparti, ensuite j'avais pris un avion Erbil, Istanbul, j'attendais sur le tarmac et étaient arrivés des prélats du monde entier, d'Australie en particulier, avec des dollars, mais aussi pour favoriser l'émigration. Et le dilemme à l'époque, c'était est-ce que on peut rester pour maintenir une présence chrétienne en Orient, ou est-ce que les malheureux évidemment, vont avoir des conditions de vie, d'épanouissement personnel bien meilleures en Australie, où on va pas leur jeter des pierres et leur trancher la tête, plutôt que dans un nord de l'Irak où ils seront pris entre le marteau du chiisme radical et du sunnisme extrême, si vous voulez. Et c'était un dilemme terrible, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui le christianisme disparaît de la région qu'il a vu naître. Hein. On se rappelle le voyage du pape François en Irak, quand il a rencontré l'ayatollah Sistani, qui était un moment important, un moment fort de l'histoire du christianisme oriental contemporain. Mais c'est bien sûr quelque chose qui est aujourd'hui un des signes d'une certaine façon de l'éloignement du christianisme de son berceau civilisationnel originel. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Gaza et en Israël, avec le pogrom Razzia du 7 octobre, ensuite les bombardements israéliens sur la bande de Gaza et les morts en quantité de chaque côté, dans des conditions atroces. Les chrétiens, finalement, sont pris là aussi entre l'enclume islamiste et le marteau sioniste, d'une certaine façon, et la négociation de leur place est d'autant plus complexe.
On peut rappeler la présence de chrétiens à Gaza, quelques centaines de familles ?
Oui, qui apparemment ont été le fait qu'ils aient été ciblés a été mis en avant, c'est de bonne guerre, par le Hamas pour dénoncer dénoncer les opérations israéliennes et chercher de la solidarité auprès des chrétiens du monde entier. Mais c'est étonnant parce que Gaza, quand on y songe, était l'aboutissement de la grande route de l'encens, vous savez, qui traversait à dos de chameau qui venait du Yémen au sud et qui allait. C'est à Gaza qu'on déchargeait les chameaux, qu'on les mettait sur les bateaux pour le marché des temples de l'Empire romain et ensuite des églises. C'est sur cette route de l'encens que, justement, il y avait les villes caravanières de la Mecque et de Médine. Et le paradoxe étant justement que l'islam a détruit le commerce de l'encens puisqu'on a remplacé l'encens par les ablutions.
Alors revenons sur la question de ces intellectuels. Vous avez évoqué Michel Aflaq, qui est l'un des pionniers du nationalisme arabe. On pourrait citer aussi Constantin Zurek, qui est mort en 2000, j'ai vu. Donc oui. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré.
Non.
Personnellement, non. Georges Habash, leader palestinien du FPLP, Antoun Saadé, fondateur du Parti Social
National Syrien,
et Édouard Saïd, le fameux auteur de l'orientalisme, alors qu'il était d'une famille protestante, je crois, anglicane.
Oui.
Ces personnalités sont très différentes, des Libanais, des Syriens, des Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Est-ce qu'il y a une...
Un certain nombre de ceux que vous avez mentionnés se sont engagés à la gauche ou à l'extrême gauche. Edward Said est le, si j'ose dire, le pape, même protestant, le pape hérétique de ce qui est aujourd'hui le décolonialisme et d'une certaine manière du woke. Et c'est un, peut-être parce que ils ont été pris aussi. Said, je crois, n'était pas très bon arabisant. Il parlait beaucoup mieux anglais et français. Et il a utilisé son savoir et son aura dans l'université américaine, en particulier à Columbia University, où il était enseignant, pour révoquer en doute, d'une certaine façon, le regard occidental sur l'islam. Lui, dont toute l'éducation, en fait, était celle d'un oriental occidentalisé. Ce qui n'est pas le moindre des paradoxes quant à Georges Habash et aussi à Naïef Hawatmeh, qui était le patron du Front démocratique Libération de la Palestine. Habash était le FP. Eux aussi se sont très rapidement engagés dans le marxisme, le plus radical. Et ça a été très frappant, notamment chez les orthodoxes, puisque, au fond, le clergé grec-orthodoxe, à destination des Arabes de cette foi, étaient fréquemment des Grecs, des hellénophones qui ne parlaient pas arabe. Et donc, ça a laissé la place pour des intellectuels laïcs, arabophones, qui du coup ont pu s'émanciper de la hiérarchie orthodoxe et de ce fait faire passer d'une certaine façon un catéchisme marxiste à la place de celui qui venait des pères de l'Église.
Parmi ces auteurs, est-ce qu'il y en a un pour lequel vous avez une affection particulière, quelqu'un que vous aimez relire peut-être dans le contexte actuel ?
Relire, je ne sais pas. Je garde un très bon souvenir parmi mes voyages lors de passions arabes de Samir Frangieh, qui est donc cette famille Frangieh, mais qui était assez distant par rapport aux politiciens parfois peu recommandables qui sont issus de cette lignée, une famille qui est du nord du Liban, de la originaire surtout de la ville de Zrota au-dessus de Tripoli, et qui me semblait finalement le grand intellectuel de ce que le Liban aurait pu être, si vous voulez. Et bon, il est malheureusement décédé aujourd'hui. C'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de plaisir à m'entretenir. Il avait une culture encyclopédique, une connaissance extrêmement fine des ressorts de la société libanaise. Est-ce qu'elle peut résister à la violence aujourd'hui interconfessionnelle et puis aussi à la mainmise désormais à peu près totale du Hezbollah sur le pays du Cèdre? Ça n'est pas complètement sûr. Mais pour moi, c'était peut-être, si je puis dire, le dernier des intellectuels chrétiens qui était le porteur d'idéaux dont je crains, hélas, qu'il soit aujourd'hui contraint à l'exil.
Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'être venu jusqu'au micro de Chrétien d'Orient ce matin. Je rappelle le titre de votre excellent ouvrage que je recommande pour nos auditeurs, Prophète en son pays, Gilles Kepel, aux éditions de l'Observatoire. Je remercie Louise André pour la réalisation de cette émission, Claire Poinsignon et Claire Levasseur pour la technique. Merci, Gilles Kepel.
Merci à vous.
Nous retrouvons maintenant Solae, le service protestant. Restez sur France Culture. Bon dimanche.
شبت يهودا بدو ben amare domicilua, che se ne è la ma ben cosesea, ma taglio me la amore vado, ma taglio שילם שם וכיסי אחד מתי הרים